Alors, on va passer justement à la présentation de Nathalie Rubio, dont l'intitulé est « L'appréhension du statut de l'étranger par le prisme du droit de l'Union européenne ».
Merci Delphine. Alors, je mesure combien cet intitulé est un peu barbare pour les non-juristes et pas vraiment sexy en fait. Mais d'abord, je voudrais te remercier, Delphine, de ton invitation, de ta fidélité aussi au CERIC, qui a été quand même une de tes premières maisons, et te dire combien on a toujours plaisir à travailler avec toi, surtout sur des problématiques qu'on a étudiées depuis un moment, mais c'est vrai que ton regard et tous tes travaux permettent aussi de leur donner une autre perspective, et notamment cette perspective pluridisciplinaire qui nous manque beaucoup. Et là, je mesure, hein, en ayant écouté mon collègue historien, combien nous sommes cloisonnés en droit, très, très cloisonnés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors, merci de m'avoir associé et de me permettre d'exprimer quelques idées devant des collègues qui interviennent ou cherchent dans d'autres disciplines. Je pense que, enfin, pour moi, c'est un moment d'échange privilégié, et notamment quand j'écoutais Stéphane, il y avait un certain nombre d'expressions. Par exemple, quand vous interrogiez sur le statut, avec la définition qui est donnée par le Larousse, le statut, une position de fait, et ou alors effectivement une position par rapport aux institutions ou la société. Et pour nous, le statut, c'est un régime juridique à part entière, avec un ensemble de règles qui vont s'appliquer. Et tout ça, on va y revenir. Vous aviez parlé aussi des enjeux. Et pour nous, derrière, en fait, cet intitulé très barbare que j'ai proposé à Delphine, en fait, il y a des enjeux politiques qui sont énormes, au-delà, en fait, des règles juridiques, politiques et sociétaux, etc. Donc j'ai noté, en fait, tous ces mots-clés, mouvement de circulation. Alors c'est vrai que nous aussi, en Union européenne, c'est, en fait, ça va définir le champ de l'Union européenne. Donc on va avoir une autre perspective, mais en fait, on a un discours qui résonne en miroir, mais avec une autre perspective qui est à la fois juridique et en plus de l'Union européenne, parce que ça aurait pu être purement national, mais là, c'est l'Union européenne. L'interrogation aussi sur l'intégration. Pour nous, aujourd'hui, en droit de l'Union européenne, c'est un des critères qui est important dans la jurisprudence de la Cour. Le critère de l'intégration. Et la Cour, aujourd'hui, admet que ça puisse être une condition supplémentaire pour les ressortissants d'États tiers, même quand ils sont en séjour régulier, etc. Cette condition-là que les États ont tendance à mettre de plus en plus. Donc les questions d'identité, de contexte aussi, et la définition du citoyen et la liaison entre la notion de citoyen et la notion de nationalité. En tout cas, voilà. Parce que les deux, aujourd'hui, s'interpénètrent. Donc, merci pour tout ça, pour toute cette vision, parce qu'en vous écoutant, j'ai tout mêlé à nouveau. Donc, la conception que j'ai de cette intervention, c'est véritablement peut-être lancer des pistes, rester dans ce format d'échange autant qu'on le peut, avec peut-être aussi un avertissement de ma part, c'est-à-dire vous dire que mes propos seront ou vous paraîtront nécessairement réducteurs, parce que en droit, que ce soit le droit privé, droit public, droit de l'Union, droit national, droit européen, droit international, obligatoirement, on est encore plus cloisonné que ce que vous pensez, en fait. Donc, c'est vrai que quand j'ai proposé ce sujet, c'est une question de méthode qui s'est posée à moi. Est-ce que je vais faire une évolution en fait du statut de l'européen ou bien est-ce que je vais faire des choix? Ça, je vais vous le dire dans quelques minutes. D'abord, toujours peut-être sur cette question aussi de méthode et de parcours, puisque dans ton titre, Delphine, il y avait cette question du parcours. Juste pour comment je suis venue, moi, à ces problématiques, en fait, de migration, qui n'ont pas été le cœur de mes recherches au départ, puisque je me suis plutôt intéressée à tout ce qui concerne le territoire, en fait, à vrai dire. Le territoire, le développement territorial, le développement économique et social, donc le statut des collectivités territoriales, leur évolution, etc. Mais bien évidemment, derrière, il y a toujours... les destinataires, en fait, de toutes ces aides, de tout ce développement, qui sont les personnes, et indépendamment de leur nationalité. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser véritablement aux étrangers, on va dire, il y a moins d'une dizaine d'années, mais à l'occasion simplement de discussions avec d'autres juristes ou plutôt même des administratifs, des hauts fonctionnaires qui étaient confrontés à l'époque, mais pas seulement, par exemple à la problématique des étrangers malades, du statut en France des étrangers malades, avec une carte particulière, mais aussi des conditions qu'il fallait définir, avec une jurisprudence abondante du Conseil d'État et les réformes en cours du droit des étrangers. Et je me suis saisie de cette question-là donc par un biais un angle très précis, c'est-à-dire le statut des étrangers malades en France, même, et voir comment le droit de l'Union pouvait influencer le statut français. Mais à la base, j'ai étudié surtout les décisions du Conseil d'État et la législation française. Et puis après, j'ai élargi vers ce que pouvait apporter le droit de l'Union en la matière. Et puis, petit à petit, à la faveur d'arrêts très importants de la Cour, je me suis intéressée à d'autres problématiques, et essentiellement deux problématiques. C'est le statut des étrangers quand ils sont membres de la famille du citoyen européen, et aussi la directive, en tout cas la mise en œuvre de la directive retour, qu'on appelle la directive retour, qui a été pendant très longtemps considérée comme la directive de la honte. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'elle était plus protectrice que ce qu'on imaginait au départ par justement l'interprétation de la Cour de justice. Donc moi, je me suis intéressée à ces deux questions-là, et essentiellement sous l'angle de la jurisprudence. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai appréhendé ces questions-là de façon très très précise. Alors aujourd'hui, mais enfin ça fait déjà un moment, à la faveur des réformes des traités, etc., nos jeunes doctorants, pour eux, ils baignent dans l'espace de liberté, de sécurité, de justice, dans ce qu'est aujourd'hui la politique d'immigration de l'Union, dans la politique d'asile, dans la coopération judiciaire en matière civile, pénale, coopération policière, question de sécurité. Mais pour moi, avant, c'était vraiment très neuf. Et à la rigueur, c'était presque marginal. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne, avec les réformes en cours, avec bien entendu la crise des migrants, les défis et tout ce qu'on entend, on reviendra sur les affaires récentes, et surtout la protection des droits fondamentaux qui est l'angle cardinal, on ne peut plus échapper... en fait, à la politique d'immigration, à la politique d'asile, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible de pas en faire. Donc, voilà. Donc, mais même si ça n'est pas possible de pas en faire, de ne pas en faire, automatiquement, c'est tellement vaste que les juristes se sont spécialisés. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va être spécialisé sur, par exemple, la politique d'immigration illégale ou... Légal, ça pose moins de problèmes, j'ai envie de vous dire. C'est plus l'illégal qui pose de problème. Ou alors, qui ne fait que de la politique d'asile. Ou alors, qui va ne faire que de la coopération judiciaire, c'est-à-dire notamment lorsqu'il y a des questions de mariage, d'enfants, etc., dans différents États. Mais presque, on ne se mélange pas. En fait, mais c'est vraiment... je prends conscience de tout ça en ayant écouté l'historien. Enfin, j'en avais déjà conscience un peu avant, mais là encore plus. C'est-à-dire que moi, j'aurais été bien incapable de vous donner le statut de l'étranger en 30 minutes, de façon la plus fluide comme vous l'avez fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement, tellement de choses, ça s'est tellement développé. Et en plus, on a une triple, voire... voire même plus, dimensions. C'est-à-dire on a la dimension purement nationale, la dimension européenne, et dans l'européen, on y met l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, et donc la Cour européenne des droits de l'homme, et après, on a la dimension internationale. Donc en fait, voilà, on a toutes ces dimensions-là qui font que c'est un travail à temps plein. Et heureusement qu'on a nos doctorants qui réfléchissent sur des questions parfois bien, bien précises, comme Cara, sur le franchissement des frontières extérieures. Donc on aborde de plus en plus sur des questions aussi fines. Mais derrière, on est... Alors c'est extrêmement complexe. Et de plus en plus, quand on lit les derniers textes, là, qui, par exemple en matière d'asile, ou pour Frontex, par exemple, sur les gardes frontières, etc. Mais les textes sont d'abord d'une longueur et d'une complexité et d'une technicité rare. C'est-à-dire que si on n'est pas spécialisé là-dedans, y rentrer, c'est presque une gageure. C'est vraiment, vraiment compliqué, y compris pour le juriste, hein. Donc, y a ça. Et en même temps, la frustration, l'impatience, parce que derrière... C'est une question politique, c'est-à-dire l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Alors qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Mais il y a un véritable décalage entre ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire, parce qu'elle n'a pas la compétence de tout faire, ça, il ne faut pas oublier, que d'abord, c'est la compétence nationale. Qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'on voit qu'elle fait ? Et alors là, là, on est carrément dans une deuxième dimension. Alors, je voulais juste prendre un petit exemple, hein, c'est-à-dire que j'ai regardé... Sur une même période, vous avez par exemple le discours sur l'état de l'Union du président de la Commission européenne. Et donc il annonce les grands chantiers de la Commission européenne et le cinquième chantier après le commerce, les nouvelles technologies, etc., c'est la migration. La migration dans toutes ses dimensions. À la dimension légale, illégale. Alors il rend hommage à l'Italie, puisque vous parliez de l'Italie... Chiara est italienne et en plus le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, rend un hommage appuyé à l'Italie pour sa persévérance et sa générosité en matière d'accueil des migrants. Donc là, bon, voilà, c'est juste un petit. De la même façon, le haut représentant pour la politique étrangère, pareil, début septembre, se félicite finalement de la gestion conjointe des flux migratoires qui a donné des résultats positifs. Et le même jour, vous avez dans Le Monde un article quand même très, très critique sur la politique migratoire de l'Union qui est titré « L'échec moral de l'Union européenne ». Donc sans rentrer dans le détail de tous ces textes-là, vous voyez sur pratiquement le même jour, en fait... exactement le discours contraire qui est tenu entre les politiques et la perception, notamment dans l'article du Monde, de certains universitaires. Bref, sur le statut, donc je vous l'ai dit, nous, ce qu'on cherche, le statut pour nous, c'est d'abord une qualification juridique, c'est-à-dire dans quelle catégorie juridique est-ce qu'on va le mettre. Et à partir du moment où on met dans une catégorie juridique, il y a un ensemble de règles qui va s'appliquer, qu'on appelle le régime juridique. Donc il y a ces deux questions-là du statut. Parfois, on dit, oui, le statut, c'est rien que le régime juridique. Mais en fait, pour déterminer le régime juridique, il faut savoir dans quelle catégorie juridique est-ce que ça rentre. Alors l'étranger en droit de l'Union... L'étranger en droit de l'Union, on l'a abordé, il s'oppose au national, c'est-à-dire à celui qui a la nationalité d'un État. Hein, mais il s'oppose aussi au ressortissant d'un État de l'Union qui, lui, est citoyen de l'Union. Donc il y a déjà ces trois catégories de personnes. Là, on est dans les catégories de personnes. Et au sein de l'étranger... Vous allez avoir l'étranger en situation régulière et l'étranger en situation irrégulière. Vous allez avoir l'étranger qui vient d'un État avec lequel l'Union a des liens particuliers d'association, je pense à la Turquie, etc., qui va avoir un régime juridique qui lui est particulier par rapport à un étranger qui va venir d'un autre État avec lequel il n'y a pas de relation particulière. Et qui sera... En fait, c'est comme des cercles concentriques. Hein, et vous allez avoir aussi Donc ça, le plus loin, ça va être un État avec lequel il n'y a pas d'accord d'association. Après, vous avez les États avec lesquels il va y avoir un accord d'association avec l'Union européenne et un statut de protection et de garantie particulière. Et ensuite, vous allez avoir, très proche du centre, vous allez avoir les membres de la famille d'un citoyen européen, c'est-à-dire, par exemple, un Pakistanais qui s'est marié avec une Britannique et ils sont venus en France s'installer. Ben, ce Pakistanais-là, il ne va pas être traité de la même façon qu'un Pakistanais qui est resté, en principe, au Royaume-Uni. Le fait qu'il entre dans le champ du droit de l'Union va lui donner des droits particuliers. Ben, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, en fait, vous avez donc des catégories différentes avec un ensemble de règles différentes. Alors, dans le statut, qu'est-ce qu'on voit ? On voit bien sûr les questions de droit d'entrée, et de séjour, les droits d'entrée, de séjour, les questions pour tout ce qui va être illégal de sortie d'expulsion. Et là, d'ailleurs, c'est une des priorités de Jean-Claude Juncker. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il note qu'il y a 36% des décisions d'expulsion qui ne sont pas exécutées. C'est-à-dire que donc on a des situations d'étrangers, des étrangers en situation irrégulière qui sont sous le coup d'une décision de retour, mais ça n'est pas exécuté. Enfin, on le sait, hein, il y a eu des films là-dessus, il y a eu plein de choses, on le sait très bien. Il y a différents, mais ça c'est le droit national qui est compétent là-dessus. Donc des catégories différentes qui rajoutent à la complexité que je vous ai indiquée tout à l'heure. Alors, puisque dans ce type de séminaire, on s'interroge aussi sur les matériaux et la méthode. Alors les matériaux, pour nous, on a de quoi faire. C'est à la fois ce qu'on appelle le droit dur, c'est-à-dire toute la réglementation, à toutes les dimensions, hein, nationales, européennes et internationales, y compris quand on fait que du droit de l'Union, parce que c'est difficile de faire que du droit de l'Union. Obligatoirement, il faut qu'on s'intéresse aux autres droits. Donc les directives, les règlements qui ont été adoptés, mais aussi ce qu'on appelle le droit souple et qui est quand même important, tout ce qui va être communication de la Commission européenne, les rapports, les déclarations politiques, tout ça, ça forme aussi le droit des étrangers, ou en tout cas l'appréhension du droit des étrangers. Parce que derrière, ça donne quand même aussi la cohérence. Il va y avoir toute la jurisprudence et là, elle est hyper, enfin, elle se développe de façon exponentielle. Hein. La jurisprudence, aussi bien de la Cour de justice de l'Union que de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, a une certaine antériorité là-dedans. Et puis, bien sûr, la jurisprudence des cours nationales, et y compris des cours constitutionnelles nationales, qui peuvent saisir la Cour de justice par voie préjudicielle. Donc, automatiquement, on voit le rapport entre les situations finalement nationale et la situation européenne. Alors sur la méthode, en tout cas la mienne, c'est que dans tous ces matériaux-là, il faut faire des choix. Donc on va faire des choix d'angle, hein, obligatoirement. On va faire des choix de thème. Parce que sinon, on peut tout traiter en même temps. Mais du coup, ça va être du saupoudrage, on le sait. Donc en général, on choisit un thème, une question d'actualité, etc. Et on va rentrer par... Ça va être notre point d'entrée. Et là, on va chercher toute la documentation, mais la documentation juridique, avant tout. Enfin, en tout cas, je pense que même pour les doctorants, ça doit être la base. C'est-à-dire chercher le matériau brut, avant tout. Quel règlement, quelle directive, et puis quand il s'agit de réformes, voir comment c'était avant, etc. Bon, et déjà, c'est déjà pas mal. Voir, bien entendu, toute la jurisprudence, bref, tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, essayer de comparer dans le temps et l'espace, le cas échéant, international, européen. Et ensuite, une fois que, en fait, on a plongé vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je fais, dans un degré de précision, on étouffe et on est obligé de réouvrir et de... Tout à l'heure, vous parliez du contexte. Nous, ça va être le contexte juridique. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris, pour une situation donnée, comment on intervient, il faut qu'on l'articule avec la politique en général. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on se plonge et puis après, on redéploie. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut arriver à saisir les véritables enjeux, à mon avis. Hein, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de faire. Donc, je voudrais vous donner juste deux pistes par rapport à ce que je connais et par rapport à l'actualité, puisque moi, j'ai travaillé plutôt sur l'immigration. Peut-être un premier point, toujours sous l'angle juridictionnel d'ailleurs, une appréhension très spécifique. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que être membre de la famille d'un ressortissant européen? Voilà. C'est-à-dire, l'exemple que je vous citais tout à l'heure, être un étranger, mais être marié, ou être le parent d'un citoyen européen. Où on en est, là? Donc ça sera mon premier point, très rapidement. Et mon deuxième point, c'est, là, c'est une vision pour le coup beaucoup plus large, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'Union, en tout cas du juge de l'Union, notamment dans la préservation des valeurs. Parce qu'en fait, le droit des étrangers, derrière, il y a les valeurs, des valeurs humaines et des valeurs de l'Union. Voilà, donc vous voyez, je suis restée fidèle déjà aux juristes, c'est-à-dire avec un plan de parti, mais je n'ai pas fait exprès, c'est à la fin, on arrive comme ça. Mais finalement, à ma méthode, c'est-à-dire d'aller sur un point, vraiment sur un point très précis, et après de globaliser. Alors, sur le point très précis, je voudrais juste peut-être vous donner une idée, parce que je ne sais pas si vous savez exactement qu'il y a ce statut particulier. En fait, tout a commencé. Alors, c'est bien parce qu'on a une Italienne et on a une Chinoise. Donc, moi, c'était une affaire chinoise au départ et qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et à partir de là, il y a toute une jurisprudence qui s'est mise en place et qui continue aujourd'hui à être étayée. Et le juge est confronté à une complexité de situation familiale aujourd'hui. C'est plutôt ça. Tout part d'une affaire qui est l'affaire Chen, C-H-E-N, de 2004. C'est un des rares arrêts rendus en cour plénière par la Cour de justice. C'est-à-dire que tous les juges devaient siéger, parce que normalement, c'est en chambre ou en grande chambre, donc c'est pas... Et en fait, il s'agissait d'un couple de Chinois qui, pour fuir la politique de l'enfant unique, est venu en Europe, et particulièrement en Irlande. Et donc, Madame Chen a accouché en Irlande, et selon le droit irlandais, tout enfant né en Irlande, alors ça a un peu changé depuis, mais enfin, à l'époque, tout enfant né en Irlande, acquiert la nationalité irlandaise. Bon, très bien. Sauf que quand vous avez la nationalité d'un État membre, vous devenez citoyen de l'Union. Et donc, vous avez un statut en matière de circulation et de séjour sur les territoires des autres États membres. Donc, il avait des parents chinois. Donc, son papa est reparti en Chine pour travailler, mais sa maman est restée. Donc, bon, ils sont en Irlande. Donc, vous avez une maman chinoise et son petit. Je ne sais plus s'il avait la double nationalité, mais pour ce qui nous intéresse, il était irlandais. Elle était, parce qu'elle s'appelait Catherine. Elle était irlandaise. Et donc, la maman et la petite, enfin, surtout la maman, parce que la petite était vraiment petite, ont voulu partir d'Irlande pour aller au Royaume-Uni. Sauf que les autorités irlandaises ont traité Madame Chen comme une étrangère, comme une ressortissante d'État tiers. Et donc, c'est le droit national des étrangers qui devait s'appliquer. Sauf que Madame Chen était bien renseignée, elle a dit « Mais attention, mon enfant, elle est citoyenne de l'Union. Donc, c'est le droit de l'Union qui s'applique et ce n'est pas le droit des étrangers britanniques. » Et donc, toute la question, c'était de savoir, parce que Catherine, elle pouvait aller au Royaume-Uni librement, mais pas sa maman. Mais Catherine, c'était un bébé. Alors, elle ne pouvait pas aller toute seule. Il fallait bien qu'elle ait sa mère, puisqu'elle était à la charge de sa mère. Et donc, priver sa mère du droit de circuler, c'était priver Catherine du droit de circuler, et c'était la priver de ses droits de la citoyenneté. Bon. La Cour était face à ce dilemme, parce qu'on voyait bien que les époux Chen savaient très bien ce qu'ils faisaient, que ça ouvrait une boîte de Pandore, parce que si c'était fait une fois, ça pouvait être fait d'autres fois, bah, la Cour a quand même considéré, elle avait dit, j'ai dit avant, elle le rappelle, le statut de citoyen européen, c'est un statut fondamental auquel on attache donc une importance. Mais le terme même, puisqu'on parle de statut, c'est statut fondamental. Donc à partir de ce moment-là, la Cour de justice reconnaît un droit dérivé, hein, pas autonome, mais dérivé pour Madame Chen, parce qu'elle a la charge de son enfant qui est citoyen européen. Donc Madame Chen, elle va être dans une situation juridique tout à fait particulière, elle ne va pas être traitée comme n'importe quel étranger. Alors là, on comprend parce que Madame... Alors après, il y a toutes les questions d'abus de droit, etc., mais en l'occurrence... La Cour répond, en fait, ils ont fait ce qui était permis de faire. C'est aux États de changer leur droit de la nationalité. S'ils ne veulent pas que, quand on est, on acquiert la nationalité, bah, qu'ils changent leur droit de la nationalité. Voilà, la Cour leur dit ça. Parce qu'ils n'ont fait aucune infraction. Ils n'ont fait aucune infraction. Bon, alors, je passe rapidement sur cette affaire-là, qui allait avoir, bien entendu, des conséquences. Quelques années après... En 2011, la Cour de justice rend un nouvel arrêt. Cette fois-ci, ce sont des Colombiens qui étaient en Belgique. C'est l'affaire Zambrano. Des Colombiens qui ont demandé l'asile, qui ne l'ont pas obtenu, qui se sont maintenus sur le territoire. Ils étaient en situation illégale, sauf que quand même, monsieur Zambrano a pu travailler. Il a pu travailler à l'occasion notamment d'un litige en matière d'allocation sociale, il a donc saisi le juge belge qui a lui-même saisi le juge de l'Union. Pourquoi ? Parce que en étant resté en Belgique, non seulement il a travaillé, mais il a fait deux enfants. Et donc les enfants ont eu la nationalité belge. Alors, pareil hein, que Madame Chen, mais la grande différence, c'est que là, on a des parents colombiens en situation irrégulière, d'enfants belges, mais qui sont toujours restés en Belgique. Parce que Madame Chen, elle a fait quand même le déplacement au Royaume-Uni pour se mettre dans la situation du droit de l'Union. Donc là, tout le monde disait, mais c'est du droit national, c'est le droit belge qui doit s'appliquer s'agissant... La Cour a été saisie et elle a rappelé que c'était un statut fondamental et à certaines conditions. Elle a admis que même s'ils n'avaient pas exercé leur droit de circulation, on ne pouvait pas priver les citoyens de l'Union, je cite, « de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l'Union ». Autrement dit, le refus de séjour de M. Zambrano... allait entraîner le fait qu'il retourne en Colombie. S'il retourne en Colombie, bah les petits Zambrano, ils retournent en Colombie. Et donc, ça pose un problème en tant que citoyen de l'Union. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est un cas d'espèce, cette affaire Zambrano, parce qu'eux, ils ne sont carrément pas sortis d'autres affaires. Et en 2016, bah, se posent ces questions-là. Dans deux autres affaires qui vont concerner toujours un Colombien, mais cette fois-ci qui a une fille qui vit en Espagne, qui a une fille en Espagne, mais il a aussi une fille polonaise. Ou alors une maman marocaine qui a un enfant britannique. Mais dans les deux cas, ils n'ont pas bougé, enfin, sauf le papa de la petite polonaise, parce que du coup, là, il y a un élément, ce qu'on appelle d'extranéité, c'est-à-dire que là, on ne reste pas sur le même territoire. Et la grande différence dans ces affaires-là, c'est que les parents ont fait des bêtises avant. L'Espagne ou le Royaume-Uni s'opposent à leur séjour parce qu'ils ont des antécédents au niveau pénal. Bah, la Cour de justice va répondre, oui, effectivement, mais même si... la Cour va être dans la ligne de Zambrano en disant vous n'êtes pas, ils ne sont pas sortis, mais quand même, c'est le statut fondamental. On ne peut pas priver les enfants de leurs droits fondamentaux. Et en l'occurrence, un État pourrait refuser le séjour, sauf que ça porterait atteinte à ce statut fondamental. Donc il faut vraiment, vraiment que ce soit des menaces réelles et sérieuses pour l'ordre public national pour en arriver là. Donc en fait, on voit s'enraciner le fait que même quand on ne bouge pas, les étrangers qui ont des enfants qui sont citoyens, sont d'une certaine façon plus protégés que des étrangers, je dirais, normaux, c'est-à-dire des étrangers qui n'ont pas ces conditions-là. Alors on attend, on a pour l'instant que les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Lounès de 2017. Là, c'est un monsieur qui est nationalité algérienne, qui s'est maintenu sur le territoire britannique. Il s'est marié avec une Espagnole qui était venue au Royaume-Uni. Donc là, on se dit une Espagnole au Royaume-Uni avec un Algérien. On est bien dans le champ du droit de l'union traditionnel. Sauf que la Britannique a pris ensuite la nationalité britannique. Donc du coup, on est embêté. Bon, l'avocat général va encore dans le sens de Zambrano en disant que ça ne doit pas poser un problème, même si maintenant elle est britannique. Et encore plus dans la perspective du Brexit. Donc, bref, tout ça pour vous dire que une affaire qui devait rester d'espèce, Zambrano, parce que c'est vrai, il y avait ses petits dans des situations particulières, surtout que le père, on l'avait fait travailler, et que l'État belge n'allait pas jusqu'au bout de ce qu'il avait fait. La Cour continue là-dedans, et c'est une jurisprudence qui continue à être étayée. Et on voit la Cour qui est aux prises avec des situations familiales qui sont de plus en plus complexes. Voilà. Et qui essaye de garder une ligne de conduite. Donc ça, c'est l'étranger membre de la famille qui, aujourd'hui, se voit reconnaître un statut tout à fait privilégié par rapport aux autres étrangers. Alors maintenant, le deuxième point, plus rapidement, sur l'appréhension globale. La Cour de justice vient de rendre un arrêt le 6 septembre 2017 dans l'affaire Slovaquie et Hongrie contre Conseil. Alors, juste pour vous le situer, puisqu'on a parlé à plusieurs reprises de la crise migratoire, dans ce cadre-là, le Conseil a adopté une décision dont vous avez tous entendu parler, pour aider d'ailleurs la Grèce et l'Italie, ce qu'on appelle la décision relocalisation, c'est-à-dire faire en sorte que les migrants puissent être dispersés dans différents États de l'Union européenne. Certains États, Slovaquie, Hongrie, qui ont d'ailleurs fait le recours, mais d'autres, République tchèque, Roumanie, s'étaient opposés à cela. Il y a eu effectivement cette décision. Elle a été attaquée par la Cour. Et c'est un arrêt quand même très long, avec 345 considérants. Bien sûr, des États intervenants, etc., une quinzaine de moyens juridiques soulevés par les États, c'est-à-dire que des moyens juridiques sur la procédure, sur la forme de l'acte, etc., c'est extrêmement technique. Mais derrière, il y avait une question politique qui se posait. C'est-à-dire que quand vous lisez que l'arrêt, vous voyez des aspects très techniques qui vont alimenter le contentieux du droit de l'Union, parce que là, on est content sur les qualifications de normes, etc. Mais derrière, se posait la question centrale de la solidarité entre les États membres. C'était ça, la question. Alors, l'avocat général, quand il a conclu, Yves Bott, a mis quand même le projecteur sur cette idée de solidarité et de valeur, et a fait tout un paragraphe sur les valeurs de l'Union, en disant bien que les valeurs de l'Union étaient vraiment la colonne vertébrale, finalement, devaient être la colonne vertébrale de l'Union européenne. La Cour de justice ne s'est pas embarrassée d'autant de spécificités sur les valeurs et va simplement rappeler qu'il doit y avoir solidarité. Elle va instrumentaliser la solidarité, mais presque banaliser la solidarité sans entrer dans les détails des valeurs, véritablement, ce qu'on aurait pu attendre dans son rôle politique, ne serait-ce que pour coiffer finalement la politique migratoire de l'Union et l'encadrer. Elle ne l'a pas fait. En même temps, elle a rejeté le recours de la Hongrie et de la Slovaquie. Donc ça veut dire qu'elle a quand même, accepté cette politique-là. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est la difficulté surtout d'appréhender le statut de l'étranger sous le prisme du droit, parce que c'est énorme, surtout dans le temps qui est imparti, c'est le prisme de l'Union européenne, c'est à la fois très réducteur et en même temps très grossissante, puisque vous avez les situations que j'ai pris le temps de vous expliquer, les situations de mouvement finalement et d'évolution du droit. Et finalement, comme pour l'histoire, on se pose la question de la capacité du droit à saisir ces enjeux politiques, parce qu'on voit bien, vous disiez, le droit, l'histoire est à la traîne, mais le droit aussi, il a du mal finalement à se positionner. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Nathalie.